Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies a lancé récemment à Genève son étude sur la situation économique et sociale dans le monde 2011. Ce rapport appelle à d'importants investissements dans les technologies nouvelles afin de créer des économies vertes dans les pays en développement. Ce document souligne qu'il est nécessaire de réaliser des progrès immédiats dans le rendement énergétique, la production agricole et la prévention des catastrophes. L'humanité doit procéder au niveau mondial, au cours de 30 à 40 prochaines années, à un remaniement technologique fondamental des processus de production afin d'éliminer la pauvreté et de détourner les impacts catastrophiques des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement, souligne ce rapport. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Partons à la découverte du contenu de ce rapport de l'ONU avec notre invité Alex Hulka, chargé des affaires économiques à l'ONU à New York et co-auteur de ce document qui a pour thème la grande transformation technologique verte.
C'est un rapport révolutionnaire peut-être parce qu'il s'agit d'un changement fondamental dans trois domaines, dans des processus de production, dans l'ampleur des investissements importants ont besoin pour ces changements technologiques et aussi parce qu'il s'agit d'un changement qui doit être fait dans une période très courte.
Mais alors, pourquoi en fait, dans les 30 à 40 années à venir, l'humanité doit procéder, selon le rapport, au niveau mondial, à un remaniement technologique fondamental des processus de production? Pourquoi cela?
La première raison, c'est que la capacité de l'environnement mondial de faire face à l'activité humaine atteint ses limites. Donc, environ la moitié des forêts du monde ont disparu, par exemple. Et les ressources d'eau souterraines s'épuisent ou sont contaminées. Et la biodiversité a déjà subi d'énormes pertes. Et les changements climatiques menacent la stabilité de tous les écosystèmes. Et aussi, une autre raison fondamentale, c'est la pauvreté. La pauvreté et le manque d'accès à l'électricité. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Ils ont besoin, ils sont tributaires de la biomasse traditionnelle, comme le bois, déjection animale et charbon de bois. Et ça, c'est mauvais pour l'environnement. Et l'autre raison, c'est aussi les méthodes de production et des habitudes de consommation actuelles. On peut dire, par exemple, que même si nous arrêtions maintenant les moteurs de la croissance, l'épuisement des ressources et la pollution de notre environnement naturel se poursuivrait. C'est ça la raison pour laquelle nous avons besoin d'une vraie révolution technologique.
Qu'est-ce qui vous amène à estimer que dans 30 à 40 années à venir, que des changements importants doivent être faits? Qu'est-ce qui vous amène à déterminer une durée comme 30 à 40 ans?
C'est les estimations des scientifiques de l'environnement, principalement, qui ont arrivé à la conclusion que dans l'année 2050, les dégâts des catastrophes naturelles et sur la production aussi, ils seront de l'ordre de 40% de la production mondiale. Donc, il faut agir et aussi, c'est le temps d'agir les prochaines décennies. Et cette estimation, ils ont été faits par des scientifiques. Don't you cherish me to
see? Ah. Alex Hulka, vous êtes co-auteur de ce rapport du DSA et vous avez été chargé de rédiger le quatrième chapitre de ce rapport qui concerne les dégâts naturels. En fait, qu'est-ce que vous dites à propos des dégâts naturels dans le rapport qui a été produit par DSA?
Je voudrais dire trois choses principales. Le nombre des catastrophes naturelles s'est multiplié par 5 depuis les années 70. Par exemple, dans l'Afrique et l'Asie, les sécheresses et les inondations sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Et ce sont souvent les pays les plus pauvres qui ont été les plus touchés. Et la deuxième conclusion, la grande partie de ces catastrophes naturelles sont dues au changement climatique induit par l'activité humaine. Et la déforestation, par exemple, l'altération de la protection naturelle du littoral et la médiocrité des infrastructures ont accru la probabilité que les chocs climatiques se transforment en catastrophes humaines. Et la troisième raison, c'est la réduction des risques de catastrophes supposera un changement technologique et social de grande envergure pour les deux premières raisons que je viens de dire. Il s'impliquera des changements dans la conception des établissements humains et de l'infrastructure. Des innovations technologiques accessibles à tous fondées sur le savoir autochtone sont nécessaires, mais aussi une infrastructure résistante aux catastrophes, les habitations et la protection du littoral.
Le rapport parle d'investir massivement pour opérer ce genre de changement. Qu'est-ce que le rapport propose pour mobiliser les fonds nécessaires afin d'opérer de très grands changements et qui sont donc indiqués dans ce rapport?
Principalement, il a besoin d'une coopération régionale et après aussi une coopération globale. Et les ressources financières doivent être facilitées par les pays développés pour aider les pays en développement et principalement les pays plus pauvres. Et aussi, les changements de commerce international et favoriser la production des pays pauvres et la commercialisation avec les pays développés, utilisant les marchés de pays développés que ces pays-là pour avoir la chance de générer des ressources financières.
Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que vous pensez que de telles recommandations sont réalistes quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, avec la mondialisation, les puissants écrasent les faibles, les pays riches écrasent les pays pauvres. Donc, est-ce que vous pensez que ces recommandations sont, positives, mais est-ce qu'elles peuvent être réellement appliquées sur le terrain compte tenu de la situation actuelle?
Historiquement, on a eu des occasions où l'humanité a répondu très rapidement quand ils se sont rendus compte que la situation critique demandait la réponse vite. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, plus concrètement avec les plans Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, et aussi, par exemple, les plans Roosevelt dans l'économie américaine, mais principalement la communauté, par exemple, la communauté européenne, comme ils sont nés d'un accord mondial pour reconstruire toute l'Europe après la guerre. Aussi, le projet Manhattan, ici aux États-Unis. Je crois qu'en ce moment-là, il semble qu'il peut être impossible cet accord de coopération internationale, mais on doit persister, on doit continuer en faisant des analyses qui sont propres et que finalement, on espère que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas autre solution.
En effet, le rapport souligne que l'économie verte doit s'imposer comme le nouveau modèle. Pour atteindre cet objectif, il convient d'adopter une stratégie économique radicalement nouvelle. Les processus de décisions économiques des gouvernements ou des agents privés doivent être axés sur les façons de renforcer et non d'altérer la durabilité de l'environnement. L'économie verte se présente comme étant le concept clé à cet égard. Le concept de l'économie verte est parfaitement compatible avec celui du développement durable élaboré par l'ONU, selon lequel les dimensions économiques, sociales et écologiques constituent les trois piliers du développement. Il met en exergue l'importance de l'équité intergénérationnelle dans le développement, c'est-à-dire qu'il veille à répondre aux besoins de la génération actuelle en ne compromettant pas la possibilité des futures générations à satisfaire les leurs. Revenons sur quelques thèmes qui sont développés dans ce rapport. Qu'est dit ce document concernant la production et l'utilisation de l'énergie dans le monde?
La production de l'énergie, dans le rapport, on a dit qu'il est nécessaire une transformation énergétique complète, étendue au monde entier, pour détourner une catastrophe planétaire. Et particulièrement, pour améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie, il est nécessaire d'élargir l'application des technologies vertes. Elles ont aussi l'avantage de consommer moins de ressources et de limiter au minimum la pollution. Maintenant, 90% de l'énergie sont produits par des technologies brunes qui reposent sur les combustibles fossiles, lesquels sont à l'origine d'environ 60% des émissions de dioxyde de carbone. Réduire l'utilisation de l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre exigera des changements radicaux dans les modes de consommation, les systèmes de transport, l'infrastructure de tous les réseaux de la santé, des transports et de la vie urbaine.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'énergie d'origine nucléaire?
Il y a des chercheurs maintenant qui sont en train de faire des progrès plus rapides parce que les défis du changement climatique fait cette demande, on peut dire. Malheureusement, on ne peut pas dire que c'est une source d'énergie qu'on peut compter avec. Il y a seulement quelques pays, comme la France, qui ils ont fait des progrès, mais on attend plus de recherches sur cette énergie-là.
Et maintenant, que dit le rapport concernant la production agricole?
Concernant la production agricole, et on peut dire quatre choses importantes. L'agriculture moderne est la cause d'environ 14% des émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, pour nourrir une population toujours plus nombreuse, la production vivrière mondiale doit augmenter de 70% à 100% d'ici à 2050. Afin de relever ces défis, une révolution agricole véritablement verte est nécessaire. Il faut aussi élargir l'emploi des méthodes de culture comportant un moindre gaspillage des ressources et les mettre à la portée des agriculteurs dans le monde entier. Et aussi, il s'imposera de promouvoir des économies d'échelle dans une production vivrière durable grâce à des services d'appui adéquats, non seulement sous la forme de l'accès à des techniques agricoles viables à long terme, mais aussi en modernisant les réseaux de distribution et les transports, en créant des systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau durable, et en donnant accès au crédit et à la terre.
Mais qu'est-ce que cela concrètement veut dire pour un paysan en Afrique ou en Asie quand on lui parle de produire d'une manière verte? Parce qu'eux cultivent la terre de manière rudimentaire encore. Alors qu'est-ce que cela implique? Est-ce que ce message-là, dans ce rapport concernant la production agricole, est dirigé vers les agriculteurs des pays riches ou c'est dirigé aussi aux agriculteurs des pays en développement?
Pour les pays pauvres, ils ont besoin d'avoir accès au financement. Ils ont besoin d'avoir aussi un meilleur accès au marché des pays développés. Et aussi, ça implique que les pays développés doivent faire le transfert des technologies vertes vers les pays africains, par exemple. Faciliter ces technologies. Mais aussi, on doit utiliser les méthodes autochtones que les pays pauvres utilisent, mais renforcer avec les technologies vertes. Par exemple, il y a dans des pays pauvres en Asie du Sud où les gens, pour se protéger de quelques désastres naturels, ils font des maisons plus appropriées, mais ils ne sont pas toujours effectives. Donc, on a besoin, par exemple, des technologies qui peuvent les aider à faire des projections du temps, du climat, donc ils peuvent prévenir les désastres naturels.
Alex Hulka, vous qui êtes chargé des affaires économiques au département des affaires économiques et sociales des Nations Unies à New York et co-auteur du rapport que le DESA vient de publier à Genève récemment, un rapport qui réveille tout le monde, un rapport apocalyptique plus ou moins, compte tenu des révélations qui y sont faites. Est-ce que l'humanité peut encore faire marche arrière? Nous sommes déjà engagés dans la voie de la consommation abondante et tout le monde aspire à consommer davantage. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire machine arrière, de faire en sorte que la consommation des individus puisse diminuer, ainsi que les conséquences qui résultent de cette consommation abusive?
Les pays développés ont besoin de réduire leur consommation, parce que leur production et consommation n'ont pas une relation avec la capacité mondiale de l'environnement. Mais les pays pauvres ont besoin de la croissance économique. La leçon de ces rapports-là, c'est que les pays pauvres ont besoin d'un accroissement économique, mais vert. Donc, il y aura plus de consommation, mais basée sur des énergies, ressources renouvelables, et l'agriculture, dans les secteurs de production alimentaire aussi. Donc, pour les pays pauvres, ils n'ont pas le luxe de réduire leur consommation. Comment est-ce qu'on va réduire la pauvreté, sinon? Donc, on a besoin de plus de consommation, mais consommation plus basée sur l'énergie renouvelable.
C'est sur cette note que s'achève Escale, consacrée à la récente étude de l'ONU sur la situation économique et sociale dans le monde 2011, avec pour thème « La grande transformation technologique verte ». Le contenu de ce document est expliqué par notre invité Alex Hulka, chargé des affaires économiques à l'ONU à New York. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Hermis Rivera. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.